au quotidien avec Clotilde Saye.
Bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 octobre 2014. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour vous faire, oui, la lecture des journaux jusqu'à midi sur Canal M. Aujourd'hui, parmi les sujets qui seront traités, la chasse aux sources, et je dis bien aux sources, la charte aussi, la patente à Drainville, Lisez l'emmerdeur, le terrorisme environnemental, PKP et l'honneur, des rapports de la frustration, de la dépression et de l'indifférence à Mégantic. On revient sur le chemin Fraser à Gatineau. Oups, il y aura quelques opinions, nous irons à l'international, et puis il y aura aussi d'autres sujets comme celui-ci, Foglia, appelez-moi Anne. Comme Anne Dorval. D'où vient le nom de la ville de Gatineau? C'est vraiment très drôle, c'est signé Graton. Et puis Festival du Nouveau Cinéma, Mommy Play en France, des finalistes à la disque et on finira avec un peu de sport. Alors à la une de la presse ce matin, puisqu'on commence avec ça, Yves Boisvert, la patente à Drainville, c'est l'annonce d'une chronique qui est juste à côté. On annonce aussi celle de Foglia. Dans les deux cas, je vais vous lire tout cela dans le cadre de cette émission au quotidien. Vendu à 50%, le 10-30 voit grand et vert. Effectivement, ça a été vendu. Apparemment, on va reboiser. En tout cas, il va y avoir des changements au niveau de ce quartier que certains trouvent inhumains et d'autres non. Canadien 4, Maple Leaf 3, Plekanec tranche. Les joueurs clés du CH se sont mis en évidence contre les Leafs hier soir. Un heureux présage alors que la saison s'amorce, c'est la question qu'il faut se poser. Une menace terroriste réelle au pays. Le SCRS et la GRC invitent les Canadiens à la vigilance tout en refusant d'être alarmiste, attention. Amour et rire au FNC, le Festival du Nouveau Cinéma, The Good Lie de Philippe Falardeau a lancé hier le 43e festival qui porte ce nom du Nouveau Cinéma. Et puis environnement, il y a une catastrophe en cours, les océans s'acidifient à la vitesse grand V selon un rapport scientifique. Là aussi, j'y reviendrai pendant cette émission. Le clin d'œil de Stéphane Laporte, PKP songerait à placer Jean-François Lisée dans une fiducie sans droit de regard. Stéphane Laporte. Bon, et puis hier, j'imagine, d'ailleurs je voudrais remercier Christiane Campagna qui m'a remplacé hier matin et ce sera le cas pour encore quelques mercredis à venir, au moins deux si je ne m'abuse. Alors merci beaucoup Christiane et j'imagine qu'elle a dû vous faire part de cette chronique qu'a écrite Patrick Lagacé. Au sujet de sources que ma foi, sur laquelle la police aurait bien aimé mettre la main. En tout cas, moi, j'ai été fascinée par ce papier-là sur lequel revient Paul Journet aujourd'hui. Ça s'appelle « La chasse aux sources », c'est le nom de son édito. Il écrit « Il y a un mot pour qualifier la chasse aux sources journalistiques de la Sûreté du Québec, intimidation ». Dans le sens le plus fort du terme, soit d'essayer de contraindre une personne à faire ce qu'on veut. Et dans ce cas-ci, l'objectif est le silence, autant celui des journalistes que des sources qui les alimentent. Le combat de la SQ est celui de l'immobilisme. La défense de la réputation des policiers semble avoir préséance sur la sécurité publique et cette dérive s'accomplit depuis quelques années avec la complicité de Québec. La défense de la réputation des policiers semble avoir préséance sur la sécurité publique. Notre collègue Patrick Lagacé a raconté hier l'opération Vipérine des enquêteurs. Il lui demandait de dévoiler ses sources dans l'affaire Davidson, faisait planer des menaces et répandait de fausses rumeurs sur sa collaboration pour inciter d'autres reporters à parler. Selon les révélations du Journal de Montréal et de la presse, ce retraité du service de police de la ville de Montréal a volé une liste secrète d'informateurs. Il possédait environ 1500 fiches d'informateurs actifs et 10500 d'anciennes sources. Il voulait les vendre à la mafia qui aurait pris connaissance du nombre de taupes et de l'identité de quatre d'entre elles. Le SPVM s'est senti humilié. Avec raison. Mais au lieu de se préoccuper du cafouillage de la police, le véritable problème, le gouvernement libéral a laissé avec indifférence le directeur des poursuites criminelles commander à la SQ une chasse aux sources et il a refusé d'exclure l'écoute électronique des journalistes. Il n'existe pas de droit absolu à la confidentialité des sources journalistiques, écrit Paul Journet. La Cour suprême l'a encadré à partir d'un test assez simple. Le critère essentiel, le maintien de l'anonymat doit servir l'intérêt public. Tout indique que c'était le cas dans l'affaire Davidson. Des policiers craignaient que la taupe s'en tire avec une amende de 5 000 $, comme le voulait la rumeur, et qu'on étouffe cette crise. Ils ont donc sonné l'alarme. Et il n'y a pas eu d'entrave. Les fuites sont survenues 6 mois après le début de l'enquête interne secrète du SPVM. Davidson se savait alors piégé. On ne risquait donc plus de torpiller l'enquête. Et malgré tout, pour s'assurer de ne pas nuire à ce travail, nos collègues et d'autres médias n'ont pas publié certaines informations. Malheureusement, cette chasse aux sources n'est pas un phénomène isolé. Par exemple, Michel Arsenault, ex-patron de la FTQ, a aussi obtenu du gouvernement péquiste une enquête pour savoir qui a divulgué des informations à son sujet en lien avec l'enquête Diligence. On comprend que la ministre de la Sécurité publique, Lise Thériault, hésite à commenter une enquête particulière de la SQ entamée avant son arrivée en fonction. Mais il ne faudrait pas qu'elle acquiesce à de futures demandes de chasse aux sources. En parallèle, pour améliorer la transparence, le gouvernement Couillard devrait renforcer la loi sur l'accès à l'information et adopter une nouvelle loi pour protéger les dénonciateurs. Quant à la SQ et au SPVM, ils devraient adopter une nouvelle stratégie plus conséquente avec leurs récents échecs, celle de la petite gêne, concluait Paul Journet. Toujours dans la presse avec Yves Boisvert, cette fois-ci. La patente à Drainville, écrit-il, au rythme où ses collègues la renient, on est bien obligé d'appeler ça la charte à Drainville. L'un avait des réserves mais n'a rien dit, l'autre a soulevé des objections en privé mais s'est rallié. Une troisième était mal à l'aise mais s'est laissée convaincre. À peu près la moitié du cabinet de Pauline Marois était opposée à la charte des valeurs telle que rédigée et défendue par Bernard Drainville. Mais ils n'ont rien dit. Ils ont tenté de se faire élire en s'assoyant dessus. La victoire, pensait-il, était à ce prix. Jean-François Lisée, qui en est pourtant l'un des grands inspirateurs, relisons ses textes de 2011, a été l'un des premiers après la défaite à prendre ses distances. L'homme nous dit même, dans un livre à paraître, qu'il aurait quitté le cabinet plutôt que de voter pour la charte telle qu'elle. En tant qu'humaniste, voyez-vous, il n'accepte pas, dit Boisvert, qu'on fasse perdre son emploi à une fonctionnaire qui porterait le hijab. Il y a une sorte de droit acquis de l'employé, et si le gouvernement a changé les règles du jeu, ce n'est pas à elle d'en faire les frais. Mais, cher Jean-François, n'ai-je pas lu un texte co-signé par vous et Bernard Drainville dans le New York Times, un texte qui tentait de faire croire aux Américains que cette charte était dans le plus pur esprit de ma liberté de religion et de la laïcité de l'État définie par le grand Thomas Jefferson il y a 225 ans? Oui, me dit le député de Rosemont, mais jamais il n'a dit qu'il était d'accord avec tous les détails. D'ailleurs, à The Gazette, il a dit que personne ne va perdre son emploi. Ailleurs, il a dit qu'il faudrait penser à la transition. Les esprits subtils auront deviné qu'il suggérait ici une période d'adaptation plus ou moins longue avant l'entrée en vigueur de la charte, ainsi qu'il l'avait préconisé en détail en 2011 dans son blog. Il est conseillé de toujours avoir un jésuite sous la main quand on analyse du JF Lisée. Hélas, ils se font rares, écrit encore Yves Boisvert. Cet humaniste est absolument révolté à l'idée de faire perdre son emploi à une conductrice d'autobus qui porterait un tivoile, mais pas le moins du monde de le refuser à celle qu'on n'a pas encore embauchée. Drôle d'humanisme, celui qui reconnaît des droits fondamentaux uniquement en fonction des hasards de l'embauche, de la chronologie et de l'ancienneté. Drôle de principe, celui qui est assez bon pour vous faire démissionner dans un futur hypothétique, mais pas assez pour que vous le formuliez publiquement au présent, alors que le débat fait rage. Mais avec la charte, il est question d'un débat qui déchire la société depuis août 2013, qui touche aux croyances fondamentales, à la philosophie politique même. Il n'y a pas de place pour finasser. La chef de cabinet adjointe de M. Lisée, d'ailleurs, Christine Fréchette, a carrément démissionné tant elle jugeait ses valeurs irréconciliables avec le projet Drainville-Lisée. Devenu quoi déjà? Ah oui, la patente à Drainville. Jean-François Lisée explique maintenant assez clairement le but de l'opération, au cas où on ne l'aurait pas encore deviné. La charte serait attaquée par Ottawa devant les tribunaux, probablement taillée en pièces vu la jurisprudence. Ainsi, écrit-il dans son livre, son gouvernement pourrait faire la démonstration que des choix considérés essentiels par les Québécois étaient irréalisables dans le cadre canadien. L'important, c'était l'outil de mobilisation nationale autour d'un rejet programmé par Ottawa. et les tribunaux fédéraux bien plus que la présumée laïcisation. Voilà comment ce PQ a régressé, bazardé les droits pour un gain politique, ignoré la commission des droits, excité involontairement les xénophobes. Un recul de 25 ans, cette charte, a même conclu Jacques Parizeau.
C'est dur d'être un humain, de se tenir sur ses deux mains, le cœur à l'envers, le vent dans les voiles, les nœuds sur la corde, le cœur sur la toile. C'est dur d'être un humain, de se tenir par la main, le cœur à l'endroit, la tête à l'envers, les voiles sur la corde, le vent de travers. C'est dur d'être un humain, de voir la lune et le soleil se disputer le même ciel, de voir le ciel se disputer tous les humains. C'est dur.
Elle s'appelle Caroline Dété. Cette chanson s'intitulait « C'est dur d'être un humain ». Dans, à la une du Devoir maintenant, en ce jeudi 9 octobre 2011, les libéraux aux trousses de PKP, le patron de presse et départ spectaculaire pour Mommy de Xavier Dolan en France. Bien sûr, deux sujets sur lesquels nous allons abondamment revenir pendant cette émission au quotidien. Projet de loi 10, les associations patronales en santé menacées. Le projet de loi 10 signe l'arrêt de mort de nombreuses associations d'établissements mettant à mal, selon ces dernières, la liberté d'expression, la liberté d'association ainsi que des services, par exemple, le programme qui permet l'encadrement des conducteurs épinglés pour conduite avec les facultés affaiblies. De nombreuses associations québécoises ont confirmé au Devoir être très sérieusement menacées de disparition pour la simple et bonne raison que les établissements qui leur versent des cotisations disparaîtront dans la foulée des fusions. S'il n'y a plus de membres, il n'y a plus d'associations, indique Diane Lavallée, directrice générale de l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux, la plus importante des associations qui se retrouvent sur la corde raide. À la une encore du devoir, 80 djihadistes de retour au Canada, la menace terroriste est réelle, dit le SCRS. De la centaine de ressortissants canadiens partis grossir les rangs terroristes à l'étranger, 80 sont maintenant de retour au pays. Les services de renseignement canadiens les surveillent. La menace est bien réelle, a prévenu l'espion en chef du Canada, venant ainsi fournir des munitions aux conservateurs qui se préparent à présenter des nouvelles mesures antiterroristes. La photo, nous sommes en Turquie. Alors qu'il y a des émeutes pro-kurdes, la colère kurde frappe la Turquie devant l'inertie des autorités face au combat que livrent les Kurdes contre le groupe État islamique. Des émeutes ont éclaté à Ankara et dans d'autres villes turques. Et là, on voit un ou une manifestante portant un drapeau et portant surtout un masque à oxygène sur le visage. Urbanisme, le chantier, un espace à investir plutôt qu'à fuir, écrit Isabelle Carré. Plutôt que de donner des sueurs froides aux commerçants et à l'administration municipale, le chantier majeur de réfection de la rue Sainte-Catherine doit être saisi au vol pour transformer le chaos appréhendé en occasion de créativité et d'échanges avec les citadins, ont soutenu mercredi divers experts réunis à Montréal. Le chantier, c'est le signe de la vitalité d'une ville. Une ville qui n'a pas de chantier est une ville morte, affirme Jean-Pierre Grunfeld, consultant de la firme française Paysages Possibles. Et puis aussi à la une, on nous annonce le cas au 43e Festival du Nouveau Cinéma qui s'est ouvert hier en compagnie des Ouïghours de Guantanamo. À Montréal, pour le lancement d'Ouïghours, prisonnier de l'absurde de Patricio Henriquez, ce vendredi, Rushan Abbas, qui servit d'interprète à ses compatriotes enfermés à Guantanamo, revient sur cette incroyable aventure. Voilà en gros ce qui complète la une du Devoir de ce matin. J'ai retenu pour vous un premier papier de Caroline Monpetit. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 9 octobre, c'est la Journée internationale du handicap. Et j'ai entre autres relevé ce papier qui s'appelle « Ces proches aidants qu'on empêche d'aider. Ceux qui s'occupent d'un proche atteint d'une maladie mentale réclament plus de place. Aux prises avec un système qui leur laisse peu de place et de marge de manœuvre, les proches aidants des personnes atteintes de maladie mentale demandent plus de souplesse dans l'interprétation des lois et davantage d'encadrement pour leurs proches qui sortent de l'hôpital. » Lorsqu'il veut signaler une détérioration de l'état de santé de son fils schizophrène au médecin de celui-ci, Jean-Pierre Longelier doit laisser un message à la secrétaire ou à l'infirmière. Celle-ci rappelle alors le fils de M. Longelier pour fixer un rendez-vous plus tôt que prévu, souvent en prétextant un conflit d'horaire. C'est le moyen qu'il a trouvé pour contourner le règlement sur la confidentialité, qui prévoit que les informations sur le dossier de santé des adultes malades ne peuvent être transmises à un tiers, même s'il est apparenté, sans leur consentement. Aux premières loges des avancées de la maladie mentale de leurs proches, les aidants sont pourtant souvent carrément mis de côté par le système et réclament d'être davantage impliqués dans le processus de traitement de la personne qu'ils aident. Ils demandent une interprétation moins stricte de la loi sur la confidentialité qui interdit aux médecins de leur transmettre des informations sur les traitements. Et ils souhaiteraient aussi que les juges aient une vision à plus long terme de la dangerosité de la personne souffrante, dans le cas où ils doivent obtenir de la Cour un mandat d'ordonnance d'évaluation psychiatrique ou un mandat de traitement. Et c'est ce que revendique Hélène Fradet, directrice de la Fédération des familles et amie de la personne atteinte de maladie mentale, alors que débutait lundi la semaine de sensibilisation aux maladies mentales au Québec. Toujours dans le Devoir, Michel David signe sa chronique ce matin, dont le titre est « L'emmerdeur ». Heureusement, dit-il, que Jean-François Lisée est là pour mettre du piquant dans la course à la chefferie du PQ, même s'il fait un peu penser à ses équipes de hockey qui sont virtuellement exclues des séries éliminatoires et qui s'amusent à faire trébucher celles qui se battent encore pour y participer. Après sa sortie sur le conflit d'intérêts dans lequel se retrouve Pierre-Carl Péladeau, dont les adversaires du PQ n'ont pas tardé à tirer profit, il a lancé un deuxième pavé dans la mare en déclarant qu'il aurait voté contre le projet de loi sur la charte de la laïcité, faute d'une clause dite « grand-père » qui aurait permis aux employés de l'État déjà en poste de conserver leur signe religieux. Il est très possible que M. Lisée ait eu des réserves face au projet de son ex-collègue et bientôt adversaire Bernard Drinville. Certains de ses collègues en avaient aussi. Mais il faut faire un très gros acte de foi pour croire qu'un homme aussi manifestement content de son sort aurait renoncé à un conseil, à un siège au Conseil des ministres, si le PQ avait réussi à obtenir une majorité de sièges sans laquelle le projet aurait dû être amendé, de toute manière, sinon carrément abandonné. Au lendemain de l'élection du 7 avril, il avait reproché un manque de transparence quand l'opposition avait réclamé les avis juridiques dont M. Drainville prétendait disposer. Mais il n'avait jamais donné le moindre indice d'un désaccord si profond qu'il aurait senti le besoin de manifester officiellement sa dissidence. M. Lisée s'est financé comme pas un. En fin de semaine, il était catégorique. La propriété d'un empire médiatique, même si elle est confiée à une fiducie sans droit de regard, est incompatible avec le métier de politicien. Il a suffi que PKP réitère que telle était son intention pour qu'il y voie un très grand pas en avant, même s'il l'a invité à faire preuve d'encore plus d'imagination. De toute évidence, M. Lisée aime vivre dangereusement, mais il pourrait bien se brûler. Il est clair que son attaque contre PKP a déplu à plusieurs au sein de son parti. Raymond Bachand pourrait témoigner de ce qu'il peut en coûter de s'attaquer ainsi à celui qui a toutes les chances de devenir le prochain chef. Durant la course à la succession de Jean Charest, bien des libéraux ont regretté d'avoir reproché à Philippe Couillard ses liens nébuleux avec Arthur Porter. Même s'il avait voulu poursuivre sa carrière, M. Bachand n'aurait jamais retrouvé la confiance de son chef. Qu'il s'agisse de M. Lisée ou de la CAQ, la perspective d'embarrasser, voire d'éliminer un adversaire n'est sans doute pas étrangère à ce souci de faire en sorte qu'un mur étanche sépare le médiatique et le politique. Bien évidemment, la modification du code d'éthique proposée par la CAQ vise spécifiquement M. Pelladeau, mais le problème n'en est pas moins réel et le PQ aurait tout intérêt à en prendre acte plutôt qu'à crier au complot.
Ah, one, two, three. Juste la lame entre les portes qui mène au bonheur. Je suis un sniper qui sait pas ce qu'il vise. Un franc-tireur en période de crise. Je suis un emmerdeur, un libre penseur. Souvent j'ai l'esprit ailleurs. Je suis un électron libre, plein de contradictions. De la chaîne humaine, je suis un maillon indocile, en désobéissance. J'ai l'âme en résistance. Je connais pas les codes, j'ai d'autres valeurs. Plutôt les miens sont pas les leurs. C'est plus fort que moi, j'aime les outsiders. Je comprends pas pourquoi il faut croire les menteurs, même si c'est déguisé en enfant de cœur. Indocile, en désobéissance, j'ai l'âme en résistance. Je connais pas les codes, j'ai d'autres valeurs.
Oui, chanson très bien trouvée, un emmerdeur de M. Charlily Couture sur les ondes de Canal M suite à ce papier au sujet de M. Lisée qui s'appelait l'emmerdeur. Alors, avec Jean-Thomas Léveillé, un fléau payant pour le terrorisme. entre 77 et 235 milliards. Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est ce que rapporteraient annuellement les crimes de nature environnementale. C'est plus que les dépenses du Québec qui atteindront 74 milliards cette année et certaines de ces activités illicites serviraient à financer des groupes terroristes. Espèces menacées d'extinction, exploitation illégale des ressources minières, déforestation, surpêche, déversement de déchets toxiques et les crimes environnementaux sont un véritable fléau. Ils représentent non seulement une menace grave pour la santé humaine en détruisant les écosystèmes, mais ils sont aussi une source de revenus pour des groupes armés, nous dit Jean-Thomas Léveillé. En Somalie, par exemple, le trafic de charbon de bois vers la péninsule arabique serait la principale source de financement des islamistes Shebab, qui déstabilisent le pays et qui ont revendiqué l'assaut meurtrier du centre commercial Westgate de Nairobi au Kenya il y a un an. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la vente d'ivoire qui découle du braconnage d'éléphants financerait les activités de l'armée de résistance du Seigneur, une guérilla d'origine ougandaise. Son chef, Joseph Kony, est recherché par la Cour pénale internationale qui veut le juger pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, dont viol, mutilation, meurtre et recrutement d'enfants. Dans le rapport The Environmental Crime Crisis, publié cet été, Interpol et le Programme des Nations Unies pour l'environnement dressent un portrait détaillé du phénomène qui rivalise d'ampleur avec le trafic de drogue et appelle la communauté internationale à l'action. Le Canada a été l'un des premiers pays à s'impliquer lorsqu'Interpol a mis sur pied sa section des crimes contre l'environnement. Au Québec, aux côtés des États-Unis et de la Norvège, raconte David Higgins. Le Canada est un leader mondial en matière de lutte contre le crime environnemental. Au lieu de regarder des pays comme le Kenya et la Tanzanie développer leur politique pour le combattre, il a partagé les siennes. C'est même un Canadien, apprend-on ici, qui préside le groupe de travail d'Interpol sur les espèces sauvages. Sheldon Jordan, directeur général de la division de l'application de la loi sur la faune d'Environnement Canada. On fournit souvent de la formation qu'on a déjà développée pour nos agents, précise-t-il au téléphone. La presse a réussi à lui parler après de longues démarches auprès du service des communications d'Environnement Canada, qui a imposé qu'une représentante du ministère assiste à l'entrevue. Pour contrer le problème, il faut des lois robustes et une application robuste, croit David Higgins. À ce titre, le Brésil est l'un des leaders en la matière, souligne le rapport, évoquant un effort majeur pour réduire les coupes forestières illégales, ciblant tous les aspects du problème. La déforestation dans la forêt amazonienne du Brésil a ainsi atteint en 2012 son plus bas niveau depuis le début de la surveillance du phénomène en 88. L'observation par satellite et des opérations policières ciblées, suivies d'enquêtes et de mise en accusation de têtes dirigeantes, en serait la cause. La Tanzanie s'est pour sa part attaquée au braconnage. Depuis 2 ans, plus de 1100 rangers ont reçu une formation spécialisée dans la traque des braconniers et la gestion d'une scène de crime impliquant la faune, qui est appuyée par des procès basés sur une preuve solide. Depuis 2013, la Tanzanie participe conjointement avec l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Swaziland et le Zimbabwe à l'opération Wildcat, qui a permis la saisie de 240 kilos d'ivoire et à l'arrestation de 660 personnes.
Au quotidien, avec Clotilde Seil.
Et nous sommes maintenant avec le journal de Montréal en ce jeudi 9 octobre 2014. Qu'avons-nous ici? On voit la photo d'un petit garçon qui a été battu par des enfants de 8-9 ans à coups de pelle et de bâton. On parle là, bien sûr, d'intimidation et de cet enfant qui a raconté son calvaire dans les pages du journal de Montréal. PKP met son honneur en jeu avec une photo à l'appui de M. Pelladeau à la une du journal de Montréal. Et puis, nuit. Très bon départ pour le Canadien de Montréal. C'est le gros titre avec 2 buts de Plekanec. Et le Canadien de Montréal qui a gagné 4-3 dans son premier match contre Toronto, à Toronto, hier soir. Je vous le disais en ce début d'émission, 9 octobre, c'est la journée du handicap. Et j'ai trouvé ce papier dans le Journal de Montréal ce matin au sujet des handicapés qui sont exclus du suicide assisté. C'est signé Héloïse Archambault. Si le décès troublant de M. Mayence, ça c'est ce monsieur dont on a lu à la une de la presse, il en était question aussi dans le Journal de Montréal hier, de ce type qui a décidé de se suicider en faisant une grève de la faim. Donc on sait que c'est absolument épouvantable et pour lui et pour l'entourage. Alors elle écrit, Héloïse Archambault, « Si le décès troublant de M. Mayence soulève le débat du suicide assisté, l'organisme d'aide aux handicapés MEMO croit plutôt que la solution passe par de meilleurs soins. » S'il avait eu de bons soins, il n'en serait pas venu là. C'est tout le système de santé qu'il faut revoir, croit fermement Walter Zelaya, directeur général de Moelle Épinière et Motricité Québec. Le mémo, donc. Récemment, le projet de loi Mourir dans la dignité a été adopté pour alléger les souffrances des gens en fin de vie atteints d'une maladie incurable. Or, les personnes handicapées ne seront pas incluses dans la loi. Malgré cela, Mémo ne croit pas que le suicide assisté soit la solution à long terme. Le gouvernement du Québec est allé plus loin qu'il pouvait dans le projet de loi, croit M. Zelaya, ce qu'il faut. C'est offrir une qualité de vie à ces gens-là. On les voit trop souvent comme un fardeau, mais ce sont des gens qui apportent à la société. Interrogé. Ah, je pense que nous avons le droit à une alarme de feu, mes amis. Et comme nous sommes en direct et que nous ne sommes pas les seuls, voyez-vous, la radio Canal M, l'organisme Vues et Voix, il y a peut-être un millier de personnes qui travaillent dans l'édifice dans lequel je vous parle là. Je pense que nous allons être obligés d'interrompre et de mettre un peu de musique. C'est ce que tu vas faire, mon ami Kamal, et puis je vais être obligée de vous laisser le temps que cette alarme, j'imagine que c'est comme tous les ans, on a le droit à ça, à l'automne, alors on ne s'inquiète pas. Je ne pense pas qu'il n'y ait ni bombe ni incendie. Je vous retrouve d'ici quelques minutes, le temps de descendre les étages, de poireauter un petit peu dehors et de remonter. Ah, mes amis, quelle aventure! Voilà, descendre 5 étages, remonter 5 étages, et oui, que voulez-vous? L'alerte au feu, en fait, c'est un exercice de feu, et comme je vous le disais juste avant de descendre, eh bien oui, notre organisme et notre studio est dans un immeuble où il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui travaillent. Il y a combien d'étages? Je ne me souviens plus, mais enfin, il y en a quand même beaucoup. Alors, combien tu dis? 13 étages, alors c'est vous dire. Alors, il a fallu donc évacuer tout ce beau monde-là, et on a fait ça calmement et on a fait ça comme des grands. Et en sortant, je regardais notamment la tour de Radio-Canada et je me disais, tiens, il va en être question dans la prochaine chronique que je vais vous lire. C'est sorti dans Le Quotidien, à la une du Quotidien. On nous annonce le fait qu'un Robert Valois a été incarcéré. On parle là de pornographie juvénile. On parle de prisonniers molestés et d'un gardien qui sera suspendu. Et on parle du départ réussi du Canadien de Montréal contre les Maple Leafs. Ils ont gagné hier soir 4-3. Et Joël Martel, sa chronique ce matin, c'est « Au royaume des aveugles ». Alors là, voilà, tranquillement mais sûrement, je commence à être habité par ce curieux sentiment, dit-il, que quelqu'un, quelque part, a décidé qu'il en avait assez de Radio-Canada. Signe des temps, et comme quoi on vit à une drôle d'époque, non seulement ce quelqu'un, quelque part, n'a rencontré personne sur sa route qui lui a dit que c'était là une idée digne du roi des crétins, mais ce quelqu'un, quelque part, a littéralement eu le champ libre jusqu'ici. Mais comment expliquer un tel délire? En ce qui concerne le fait que personne n'ait cru bon de raisonner, ce quelqu'un, quelque part, je me contenterais de présumer que cet individu n'a tout simplement pas d'amis dignes de ce nom. J'en conviens, c'est là une théorie qui peut sembler enfantine. Or, à bien y penser, si jamais l'idée vous venait de vous crever une oreille et un tympan afin d'épargner quelques dollars et qu'après l'avoir annoncé à tous les vents, pas une seule personne dans votre entourage n'arrivait à vous convaincre que c'est là une idée des plus imbéciles qui ait pu voir le jour, je vous dirais poliment que vous avez soit des amis cons comme la lune, ou sinon que vous vous trompez sur leur véritable nature, et que fort probablement ces amis retirent un plaisir sadique à vous voir vous automutiler pour aucune raison valable. Car n'ayant pas peur des mots, ce qui arrive depuis plusieurs mois et surtout ce qui se profile à l'horizon pour Radio-Canada a tout d'une longue et cruelle télé-réalité qui mènera ultimement à la disparition du protagoniste principal, du genre la mort en direct. Et ici, ce n'est pas seulement à la lente agonie d'une institution à laquelle nous assistons. Ici, c'est aussi une communauté de travailleurs. Ici, ce sont souvent nos oreilles et nos yeux. Ici, ce sont des voix qui partagent ou non notre vision du monde. Ici, c'est une tribune pour des artistes qui, même s'ils ne brillent pas autant que les abonnés au palmarès, éclairent les jeunes esprits de demain qui nous feront rayonner tout autour du monde. Ici, ce sont des nouvelles qui se prêtent moins bien à des vulgarisations avec des cônes oranges et des balles de tennis. Ici, ce sont nos histoires à nous. Ici, c'est notre langue française, parfois tout croche et parfois tellement trop soutenue qu'on ne peut qu'en rire. Or, tout ça, c'est bien beau, mais reste qu'en ce moment, le quelqu'un quelque part tient fermement l'oreiller qu'il a posé sur le visage de Radio-Canada. Faudrait peut-être que la population se réveille enfin et qu'elle lui fasse comprendre qu'elle ne veut pas de ce genre de spectacle-là. Mais bon, peut-être aussi, conclut Joël Martel, que je m'inquiète pour rien, car à la fin, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, écrivait-il ce matin. Je lisais en quelques lignes dans un autre journal qu'on annonçait d'autres coupures humaines, donc d'autres coupures en production cette fois-ci à Radio-Canada dans les jours ou les semaines qui vont venir. Alors, on a de quoi s'inquiéter, effectivement. Quelques mots d'écologie pour finir. Les océans du monde seront trop acides pour une grande partie de la vie marine d'ici la fin du siècle et les eaux canadiennes seront particulièrement touchées par le phénomène. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport du secrétariat sur la Convention sur la diversité biologique. C'était à la une de la presse ce matin. Alors, il y a catastrophe en cours, mais les gens ne la voient pas, dit Alfonso Mucci, directeur du département de sciences de la Terre et des planètes à l'Université McGill, où il enseigne la géochimie et l'océanographie. À la base de ce phénomène, les océans absorbent environ la moitié du CO2 industriel. Ce gaz, une fois dissous dans l'eau, forme de l'acide carbonique et rend l'eau plus acide. Selon le rapport du SCDB, l'acidité des océans a augmenté en moyenne de 26 % depuis l'ère pré-industrielle. Pour certaines algues microscopiques et certains crustacés, la vie n'est tout simplement plus possible. Dans les eaux canadiennes plus froides, le phénomène est encore plus prononcé. Nous dit-on dans ce papier, sous la plume de Charles Côté, selon le rapport du SCDB, la raison en est simple, explique M. Mucci, plus une eau est froide, plus elle absorbe facilement le CO2. La plus grande partie des eaux de surface de l'océan Arctique sera sous-saturée en aragonite d'ici 50 ans, affirme-t-on dans le rapport. Le changement va donc aussi frapper plus durement les eaux froides, comme l'Atlantique Nord et l'Est du Pacifique, sur les côtes canadiennes. Il y aura des répercussions dans tout l'écosystème marin, par exemple, les ptérophages produisent un squelette d'aragonite et ils sont à la base de chaînes alimentaires, notamment pour les saumons juvéniles, dit M. Mucci.
Avec Clotilde Seille.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à
je sais d'où tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. À la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
C'est l'anniversaire aujourd'hui de la disparition de Jacques Brel. C'était le 9 octobre 1978. C'est la raison pour laquelle, et c'était une excellente idée, Kamal a décidé de nous diffuser la chanson des Vieux Amants, chantée par Jacques Brel, bien évidemment. Vous l'aurez reconnu. C'est l'émission, pardon, de Clotilde Say qui se prolonge, l'émission Au quotidien. Et nous commençons le début de cette deuxième heure, non pas par des opinions, mais par ce qui s'écrit, entre autres, ce matin dans la tribune. C'est sûr que l'émission a été un petit peu bouleversée par cet exercice de feu dans la première heure. Alors bon, bah, les plans sont un petit peu chamboulés, mais le principal est toujours bien de vous lire ce qui s'écrit à droite et à gauche. Alors si à la tribune on fait la part belle à ce départ réussi du Canadien 4-3 face aux Maple Leafs de Toronto, il est évidemment aussi question du rapport du coroner au sujet de Lac Mégantic. Et le gros titre, c'est le point final de 47 vies. Tout comme les proches de 46 autres victimes, Richard Cousteau a reçu hier le rapport du coroner Martin Clavet qui détaille les derniers moments de son frère Réal mort dans la tragédie du 6 juillet 2013. « C'est fini, dit-il, et maintenant c'est à nous autres de vivre avec ça. » La mort des 47 personnes de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic a été violente et était évitable, a conclu le bureau du coroner. En rendant publiques ses conclusions, hier mercredi, il recommande au gouvernement fédéral d'élever la barre encore plus et de renforcer sa réglementation. Luc Larochelle, dans la tribune, écrit ces mots. À son tour, le bureau du coroner du Québec conclut que la tragédie de Lac-Mégantic n'était pas une catastrophe imprévisible et imparable. Ce décès était évitable, écrit-il dans le rapport personnalisé produit pour chacune des 47 victimes. L'absence des restes humains appartenant formellement à Bianca Charret-Benioche ne permet pas de préciser la cause du décès, nuance-t-on. Dans celui d'une jeune personne, les deux fillettes ont péri aux côtés de leur mère Talita dans leur logement qui longeait la voie ferrée. La différence de formulation, puisque la première, on disait l'état des restes humains d'Alissa Charret-Benioche ne permet pas de préciser la cause du décès. La différence de formulation est subtile, dit Luc Larochelle, mais témoigne d'un souci du détail afin de fournir le meilleur éclairage possible pour chaque cas, au lieu de s'en remettre à des généralités pour l'ensemble des victimes. C'est une bonne chose. Cette préoccupation n'a pas toujours existé. Le manque de considération a laissé ses traces à Chappet, compare Thérèse Villeneuve, une travailleuse sociale ayant consacré son doctorat aux séquelles de l'incendie qui avait assombri les festivités du Nouvel An dans la salle communautaire de cette petite ville du nord du Québec le 1er janvier 1980. 41 personnes avaient péri dans les flammes et 7 autres avaient succombé à leurs blessures. Les risques de dépression et d'alcoolisme sont bien documentés à la suite de traumatismes aussi importants. Ce n'est pas seulement la perte d'un ou plusieurs proches qui déstabilise, c'est toute la vie qui est chamboulée. Quand j'entends des gens dire qu'on a tous des petits chapelets à surmonter, c'est faux. On ne peut comparer un deuil individuel au ravage d'un pareil drame collectif. Les plaies sont ravivées chaque fois que survient une semblable tragédie, peu importe où elle se produit dans le monde. C'est André Lévesque, voilà. C'est un survivant de l'incendie de Chappet dont il est question qui confirme « Je n'ai pas de difficulté à imaginer le traumatisme des gens de Lac-Mégantic. Quand t'as eu à marcher sur 32 cadavres, t'es marqué pour la vie. Nous étions 12 amis autour de la table. 10 d'entre eux ont péri. Les tests d'ADN n'existaient pas. J'ai participé à l'identification d'un corps en me référant à un dentier. » J'en parle plus facilement aujourd'hui. J'ai des photos que je suis capable de regarder et de montrer, incluant celle qui a été prise par solidarité dans la fosse commune, à côté des dépouilles de mes amis. J'ai croisé Florent Quentin il y a un an et je lui ai serré la main. Il n'était pas le seul à blâmer, m'a raconté hier M. Lévesque. Florent Quentin a été traduit en justice et a écopé d'une peine de prison pour avoir imprudemment promené la flamme de son briquet sous des décorations de sapinage séché pour faire une farce. Le feu s'était mis à courir au-dessus de l'entrée principale et l'avait vite rendu inutilisable. Les issues n'avaient pas toutes été déblayées, des fenêtres avaient été placardées, bref, l'édifice n'était pas adapté pour évacuer efficacement et rapidement. 300 personnes ont révélé différentes enquêtes. Le constat s'apparente à la tolérance au risque qu'avaient nos surveillants de chemin de fer, non? De la tragédie de Chappet ont découlé plusieurs normes dans les édifices publics. Les pompiers exercent un contrôle beaucoup plus serré lors des rassemblements, signale Thérèse Villeneuve. En sera-t-il autant une fois que le fédéral aura encaissé tous les blâmes pour Lac-Mégantic? Toujours sur Mégantic et sur ce fameux rapport du coroner dont on parle ce matin, il y a ces mots. Les rapports du coroner, c'est inutile. Il y a encore un train qui a explosé mardi en Saskatchewan. C'est aussi un article paru dans la Tribune, mais aussi dans la presse. C'est Caroline Touzin et Marie-Michèle Sioui qui signent ces propos. C'est avec un haussement d'épaule que le propriétaire du Musicafé de Lac-Mégantic, Yannick Gagné, a accueilli la diffusion des 47 rapports du coroner Martin Clavet hier matin. Au beau milieu du chantier du nouveau resto-bar, il admet qu'il ne s'est pas donné la peine de lire les documents. « Je le sais très bien ce qui s'est passé au Musicafé. On l'a entendu imaginer assez souvent, » dit-il, le regard fuyant. Car son restaurant, lieu de rassemblement par excellence dans la localité estrienne, est devenu le symbole du drame qui a terrifié la petite communauté. Dans ses rapports, le coroner Clavet décrit l'ambiance qui régnait dans le Musicafé quand un convoi de pétrole s'en est approché. En tout, 27 personnes y ont péri. Joanie Fontaine, une jeune serveuse de 20 ans, était du nombre. » Le choc post-traumatique est également financier à Mégantic, à Lac-Mégantic, nous dit-on ce matin dans cet article. On passe pour des braillards, mais la vérité, c'est qu'Yannick et moi, on va sûrement faire faillite avec le Musicafé, avance l'ami du propriétaire du restaurant, un entrepreneur qui préfère taire son nom. Malgré les encouragements, malgré la pression positive pour que le Musicafé fasse vivre Lac-Mégantic à nouveau, Yannick Gagné a peur. Je peux tout perdre, ce qui me restait là-dedans, admet le jeune propriétaire. En tout, mon père et moi avons mis 1 million. C'est toutes nos assurances et 200 000 $ tirés des économies de mon père. Maintenant, faut aller chercher des prêts. Il nous manque encore 500 000 $. En raison du nouvel emplacement que le restaurant occupe à un jet de pierre de la zone rouge, Yannick Gagné paie 2 fois plus cher de loyer. Même si j'ai autant de clients qu'avant, il reste que j'ai beaucoup plus de dépenses. Est-ce un homme résilient? Non, un fou, répond-il l'air sérieux. Pourtant, le restaurateur a de la chance. Son ami entrepreneur construit son restaurant sans se garder de profit. J'ai vu des gens ici qui s'en mettent plein les poches, confie-t-il, des personnes qui voulaient ouvrir des concessions du Musique Café aux États-Unis quelques jours après la tragédie, ajoute-t-il, l'air découragé. Et puis, ce papier signé Philippe Tesquera-Lessard dans la presse, « Les Canadiens appuient l'aide à mourir ». Une majorité écrasante de Canadiens et de Québécois appuierait la légalisation de l'aide médicale à mourir pour les individus atteints d'une maladie incurable, selon un sondage réalisé par la firme Ipsos pour un groupe de pression ontarien. Dans le cas d'individus gravement handicapés, sans être atteints de maladies incurables, comme celui du tétraplégique Pierre Mayence dont la presse a fait état hier, l'appui à l'aide médicale à mourir baisse à 67% dans l'ensemble du pays. Monsieur Mayence est mort à la mi-septembre, nous rappelle-t-on ici, après avoir cessé de s'alimenter pendant 61 jours, seul moyen qu'il avait trouvé de mettre fin à ses jours. Il avait obtenu une décision de la Cour supérieure interdisant à ses médecins de le nourrir de force s'il devenait inconscient. Le niveau de soutien de 84% envers l'aide médicale à mourir pour les malades en fin de vie, c'est beaucoup plus haut qu'avant. Ce soutien apparaît dans tous les groupes de Canadiens, même ceux qu'on croirait opposés, notamment les individus religieux, s'est réjoui le Dr James Donner. Il est porte-parole du groupe Dying with Dignity qui a commandé le sondage. L'appui à ces idées est relativement semblable dans les différentes provinces canadiennes. Ainsi, 89% des Néo-Écossais et 87% des Britanno-Colombiens légaliseraient l'aide médicale à mourir pour les individus en fin de vie, contre 79% des résidents du Manitoba et de la Saskatchewan. Les Québécois se situent en milieu de peloton avec un appui de 84% à l'idée. Le sondage a été mené du 21 au 29 août dernier auprès d'un panel Internet. Pour les données relatives à l'ensemble de la population canadienne, les données sont considérées comme fiables dans une marge de 2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20.
Tu grouves un homme blanc et vers le temps s'éteint. Y'aura pas d'hiver avec toi. Méchant mélange d'ange, méchant mélange d'ange. Avec toi, fille d'automne, fille d'automne, ah Chiquita Miquan, toi les nuits sont fauves, fille, or, ange étrange, je me lance les yeux clos avec toi. Fille kaléidoscope, triple psychotrope, méchant mélange d'ange, méchant mélange d'ange, remélange. Reste
C'est Yann Perrot qu'on vient d'entendre sur les ondes de Canal M et toujours Clotilde Seil au micro pour vous lire ces journaux de la matinée en ce 9 octobre 2014, qui, je vous le rappelle, est la journée du handicap aujourd'hui. Alors, la guerre de 30 ans, se demande Claude Lévesque dans Le Devoir. La guerre contre les djihadistes de cet État islamique et qu'il faut appeler Daesh ou le groupe armé durera-t-elle 6 mois, comme on le souhaite à Ottawa, ou 30 ans, comme l'a prédit un ancien ministre de la Défense américain? La différence est énorme. La durée prévue pour le conflit est au cœur des débats engagés dans divers pays occidentaux. Les États membres de la coalition qui prend forme ont réagi de différentes façons à la menace que représente le groupe armé État islamique, EI. Au Royaume-Uni, l'entrée en guerre contre cette entité a été rapide et assez consensuelle. Ce pays se sent interpellé parce que plusieurs de ses ressortissants se sont joints au groupe djihadiste. En plus de craindre que ces jeunes recrues ne rentrent au pays pour y commettre des attentats, les Britanniques ont honte de voir des compatriotes animer les vidéos dans lesquelles on dit et montre les pires horreurs. Le 26 septembre, les députés britanniques ont approuvé la résolution déposée par le Premier ministre David Cameron par un vote de 524 contre 43. À Ottawa, 134 députés libéraux et néo-démocrates se sont opposés mardi à la motion des conservateurs au pouvoir. David Cameron a parlé d'années, non de mois. Le feu vert britannique autorise des actions militaires en Irak, mais pas en Syrie, du moins pour le moment. S'il en voit la nécessité, le Premier ministre lancera des opérations dans ce dernier pays, quitte à les faire approuver a posteriori. À Londres, on note que l'Irak a réclamé l'aide militaire occidentale. Le régime syrien, qu'on hésite à provoquer, même si on dit souhaiter sa chute, ne l'a évidemment pas fait. Le Parlement turc a approuvé à une majorité des trois quarts une résolution autorisant le gouvernement à combattre les djihadistes, y compris en envoyant des troupes au sol en Syrie ou en Irak. La Turquie s'était fait reprocher de rester passive devant le drame qui se déroule devant sa porte. Même si elle s'est jointe à la coalition, elle n'a pas levé le petit doigt pendant les combats qui ont fait rage à Kobané, ville située à un jet de pierre de son territoire. Il est loin d'être sûr que des bottes turques fouleront le sol syrien ou irakien. Ankara craint les représailles de l'EI et s'interdit tout geste susceptible d'aider les Kurdes dans leur combat pour l'autonomie. Selon un autre ancien ministre de Barack Obama, Leon Panetta, qui était à la Défense, les États-Unis et l'Occident doivent être prêts à livrer une guerre de 30 ans au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pourquoi 30 ans ? On se le demande. Pourquoi pas 20 ou 10 ou 100 ou 1000 ? On espère que la prophétie de M. Panetta n'est pas du genre autoréalisante. On veut bien que l'Occident livre un combat dans la durée, 30 ans s'il le faut, mais on préfère que ça se fasse sur le front de la technologie et de la culture, comme le suggère Mme Clinton, et aussi sur le front financier. Juste après à venir, on se demande avec Jocelyn Coulon, ok d'accord, si Kobané tombe, mais et alors, se demande Jocelyn Coulon. Thank you. Alors, Jocelyn Coulon, comme je vous le disais, Kobané va tomber. Et alors? La ville syrienne de Kobané, peuplée de Kurdes, subit depuis des semaines les assauts répétés du groupe armé État islamique. La résistance de cette ville prend un tour mythique avec sa désignation de Stalingrad du Proche-Orient, ce qui est faux, tant sur le plan militaire qu'humain. Pour autant, sa situation actuelle illustre, si besoin était, la cruauté et la complexité des conflits dans cette partie du monde. Kobané n'est pas Stalingrad. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Stalingrad a été le théâtre d'un affrontement titanesque entre les armées allemandes et soviétiques. Près d'un million de soldats et de civils y ont perdu la vie en quelques mois. Cette bataille est considérée comme un tournant dont l'issue fut la chute du nazisme. La ville de Kobané est l'objet d'un conflit entre quelques milliers de combattants et sa population s'est réfugiée en Turquie, dont la frontière est située tout près. Exit la comparaison douteuse, fruit des appareils de propagande occidentale et de quelques journalistes et commentateurs pour qui la résistance des Kurdes est trop souvent l'objet d'analyses romantiques. Pour comprendre le drame de Kobané comme celui de dizaines d'autres villes en Syrie, il faut se déplacer sur le plan politique et tenter de décoder le jeu complexe auquel se livrent les principaux acteurs. La Turquie est le premier d'entre eux et celui qui dispose dans la région des moyens les plus importants afin de dégager Kobané de l'entreprise des djihadistes. Depuis quelques jours, son président, Recep Erdogan, ne cesse de répéter à qui veut l'entendre qu'une action doit être entreprise pour sauver la ville. La terreur ne sera pas stoppée tant que nous ne coopérerons pas en vue d'une opération terrestre, a-t-il déclaré mardi. Des mois ont passé et nous n'avons obtenu aucun résultat. Kobané est sur le point de tomber. Mais que fait au juste la Turquie avec son armée de 600 000 soldats et ses centaines de blindés et d'avions de combat? Rien. Officiellement, elle attend de la coalition internationale la création d'une zone tampon dans le nord de la Syrie et d'une zone d'exclusion aérienne pour intervenir. Baliverne, répond les États-Unis, pour qui les Turcs inventent des raisons pour ne pas intervenir contre un ennemi qu'ils estiment secondaire. La Turquie a en effet deux priorités, renverser le régime Assad en Syrie et empêcher les Kurdes syriens, turcs et irakiens de s'unir. La chute éventuelle de Kobané ne les dérangera pas, surtout si le I poursuit sa stratégie de lutte contre le régime Assad. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. La ville de Kobané tombera-t-elle ou non? Dans le maelstrom qui est devenu la région, cela n'a guère d'importance. La tactique doit laisser place au stratégique. Avant de s'inquiéter du sort d'une ville, il faut s'entendre sur une action commune, cohérente et durable. Cela reste encore à faire. Le renforcement des contrôles des voyageurs internationaux constituera l'une des conséquences les plus importantes de la première personne atteinte de la fièvre Ebola diagnostiquée aux États-Unis, Thomas Eric Duncan, qui est mort hier à Dallas, écrit Richard Etu. Les passagers en provenance de trois pays d'Afrique de l'Ouest seront soumis dès samedi à de nouvelles mesures de contrôle à l'aéroport Kennedy de New York pour s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs du virus ou susceptibles de le devenir. Ces mesures s'étendront la semaine prochaine à quatre autres aéroports internationaux, soit ceux de Washington, Chicago, Atlanta et New York. Les passagers s'étant envolés d'un des trois pays les plus touchés par la fièvre Ebola, Libéria, Sierra Leone et Guinée, seront notamment soumis à un questionnaire de santé et à une prise de température avec un thermomètre à infrarouge. « Nous travaillons sans répit pour augmenter la sécurité des Américains », a déclaré hier Thomas Frieden, directeur des centres de contrôle et de prévention des maladies, lors d'une conférence de presse à Atlanta. « Nous croyons que ces nouvelles mesures protégeront davantage la santé des Américains, tout en sachant qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour éliminer le risque, tant que nous n'aurons pas mis fin à l'épidémie en Afrique de l'Ouest ». L'annonce des nouvelles mesures de contrôle dans les aéroports est survenue quelques heures après la fin du combat de Thomas Eric Duncan contre la fièvre Ebola. Le Libérien de 42 ans est mort hier matin à 7h51 après avoir été traité en vain par un médicament expérimental, le brincidofovir, un antiviral administré par voie orale. Et puis rapidement, un tour du globe en Chine. La Chine a conseillé hier au Dalai Lama d'abandonner ses visées séparatistes plutôt que d'envisager un hypothétique retour en Chine et en particulier au Tibet, région que le chef spirituel tibétain n'a pas revue depuis 1959. Le Dalai Lama avait annoncé la semaine dernière avoir des contacts informels avec la Chine afin d'y faire un pèlerinage historique. En France, 11 membres d'une même famille sont soupçonnés d'avoir quitté la France pour faire le djihad en Syrie. La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert mardi une enquête préliminaire sur la disparition de cette famille originaire de Nice. La France compte la plus grande communauté musulmane d'Europe et fournit le plus gros contingent de djihadistes occidentaux. Et puis enfin au Mexique, les forces de sécurité tentent d'accélérer les recherches pour retrouver les 43 étudiants disparus dans le sud du pays. Alors que des manifestations sont prévues pour exiger la vérité sur cette affaire, des centaines de miliciens ont entamé hier, parallèlement aux recherches officielles, leurs propres recherches. Nous allons trouver les jeunes, vivants ou morts, a dit le responsable de ce groupe. Je vous rappelle que c'est Clotilde Seil, vous écoutez Canal M et c'est l'émission Au quotidien qui se prolonge jusqu'à midi.
Bien, avec Clotilde Seil.
Que fundan dinastías y dividen los tiempos.
Si San Martín la mano pura a Martín familiar tendido hubiera, como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura. Así Guevara, el gaucho de voz dura, brindo a Fidel su sangre guerrillera, y su ancha mano fue más compañera. Cuando fue nuestra noche más oscura, huyó la muerte de su sombra impura, del puñal, del veneno, de la fiera. Solo el recuerdo bárbaro perdura. Hecha de dos, un alma brilla entera, como si San Martín, la mano pura, a Martín familiar tendido viera.
Appelez-moi Anne, 5 minutes, écrit Pierre Foglia ce matin dans la presse. Mon Dieu, que j'avais hâte de vous lire ça. Alors, il nous dit, Foglia, je reviens sur le crépage de Chignon, Anne Dorval, Éric Zemmour à la télévision française. J'y reviens par la bande, par Xavier Dolan. Quand même un mot de ce Zemmour, dit Foglia, authentique fleuron de la droite française, un descendant de la vieille droite lettrée, un Rastignac, un Balzacien. Je veux dire, ce n'est pas le premier petit convenu, ne cherchez pas de jeu de mots, il n'y en a pas. Son discours sur les femmes, les gays est construit pour faire réagir. C'est un allumeur d'incendie très conscient et très heureux de foutre le feu. Il n'y a absolument rien d'étonnant à ce qu'Anne Dorval se soit poignée avec lui. C'était écrit dans le ciel. Réjouissons-nous que ce fût elle et pas Madame Bombardier. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, Xavier Dolan. Xavier Dolan, sur les ondes d'Europe 1, trouve scandaleux qu'en France, on donne une tribune à des gens comme Éric Zemmour au nom de la libre expression. Et d'ajouter plus loin que non, le Québec n'a pas une civilisation d'avance sur la France, c'est celle de la France qui est en retard. Il se trouve des gens, Monsieur Dolan, et j'étais sûre que vous en étiez, pour croire que la liberté d'expression est plutôt un signe de bonne santé démocratique plutôt que le signe d'une civilisation attardée. Je vous signale en passant que les propos du monsieur qui a fait grimper votre amie Anne dans les rideaux, exactement les mêmes propos, sont quotidiennement tenus chez nous, au micro de certaines radios, dans des chroniques, des éditoriaux, aussi dans des textes d'humour. Et si je suis d'avis qu'il faut les dénoncer, je ne pense pas un instant qu'il faille les interdire. Par votre talent, par votre succès et leur rayonnement, par tout ce que vous êtes, Monsieur Dolan, vous avez fait plus que quiconque pour fermer la gueule des homophobes. Mais leur fermer le micro ? Très mauvaise idée. On change de personnage et un peu de sujet. L'artiste, un homme de théâtre, je crois, ou de cinéma, qu'importe, terminait son entrevue publiée dans notre cahier des arts il y a quelques jours en décrétant que le multiculturalisme, ah mon vieux, le multiculturalisme, quelle belle affaire, de toute façon, que ceux qui sont contre se fassent une raison, ne leur en déplaise, il y aura toujours un quartier chinois. Cela n'a pas fait de vague, bien sûr, même pas une ride, ni un paix, encore moins une éruption comme celle d'Anne Dorval. Souffrez que je fasse ma Anne Dorval 5 minutes, dit Pierre Foglia. Je suis tanné de me faire traiter de débile. Oui, je tiens le multiculturalisme et aussi bien l'interculturalisme cher à M. Bouchard pour une aberration. Mais non, sacrament encore, il ne me déplaît pas qu'il y ait un quartier chinois, ni italien, ni que le plateau soit maintenant français de France, ni que Saint-Laurent soit en partie arabe et la rue Jean-Talon libanaise. Les mosquées ne me dérangent pas. Ce sont les salles de prière dans les écoles qui me fatiguent. Le foulard dans l'espace public, qui représente 99,9% de tout l'espace de la planète, ne me dérange pas. C'est le foulard dans l'espace civique qui me dérange. J'y vois un signe ostentatoire de refus. Le refus d'envisager un espace commun où se fondraient toutes les différences. Je reprends ici pour la 100e fois mon image de creuset où se fondrait la nation. Oui, je suis pour l'immigration, dit encore Foglia, et non, je ne suis pas pour l'assimilation des immigrants. Mais je suis contre l'insignifiante célébration tellement québécoise, tellement canadienne, la béate célébration de la différence. La différence n'est pas une vertu. La juxtaposition de toutes les différences n'est pas en soi un enrichissement. La somme des différences peut finir par donner une culture commune, mais il faut pour cela qu'il y ait une démarche, une communion, une intégration. Un mouvement. Rassuré sur ses droits, l'immigrant doit se mettre en mouvement vers la majorité, sortir de la coquille de sa différence, disait Neil Bissundat dans Le marché aux illusions, qui avait un sous-titre qui me plaisait bien, La mélprise du multiculturalisme. Je suis tanné, dit-il pour conclure, je suis tanné de me faire dire, fais-toi une raison, il y aura toujours un quartier chinois, comme si ça me dérangeait. Ben oui, il y aura toujours un quartier chinois et des gens qui le parcourront en faisant « Oh et ah, ce que c'est beau le multiculturalisme ». Non, non, c'est pas du multiculturalisme, c'est de l'altérité touristique. Encore quelques petits mots de Pierre Foglia qui écrit le site web du Marathon de Montréal. Dans le bandeau rouge en haut de la première page, suivez les coureurs en live ici. Donc les coureurs avec deux R en live ici. Il écrit Foglia, passons sur le en live ici, mes coureurs, bon sang. Il y en avait 15 000 dans les rues de Montréal. C'est pas assez pour que vous appreniez à écrire coureurs. Ils sont la raison d'être de ce site. Combien qui sont allés suivre en live? Un ami, un parent écriront maintenant « coureur » avec deux R. Pourquoi la distribution de la pornographie est-elle un crime, mais pas celle de l'ignorance? Il conclut « Vous me copierez 10 000 fois, je suis un tata. Juste 2 T à tata, mais vous pouvez en mettre 3. » Et puis, Denis Graton, ce matin, écrit une chronique qui s'intitule « Guétineux ». Alors, il dit ceci. Connaissez-vous l'origine du nom Gatineau? Vous êtes-vous déjà posé la question? Je vous parie que non. De là, mon rôle de vous l'expliquer. Comme toujours, je suis à votre service. De rien. Alors, le nom Gatineau proviendrait des innombrables gays qui habitaient la région à l'époque et qui avaient des petits nœuds dans leur pénis. Ben quoi, vous ne me croyez pas? Pourtant, c'est dans l'encyclopédie. En fait, il existe 3 hypothèses pour expliquer l'origine du nom Gatineau. La première, la plus plausible, diront certains, veut que le nom Gatineau provienne de la famille Gastineau. L'un de ceux-ci, Nicolas Gastineau, sieur du Plessis, explorateur de la Nouvelle-France, ayant pratiqué la traite de fourrure dans la région au XVIIe et XVIIIe siècle. J'en conclus donc que la ville ne porterait pas le nom de Gatineau si PETA, P-E-T-A, avait existé à l'époque de Nicolas Gastineau, sieur du Plessis. La deuxième hypothèse est celle-ci. Patience, on arrive bientôt au pénis plein de nœuds. L'historien Raymond Ouimet a soulevé la possibilité que le nom a pris son origine d'un nom amérindien. Parce que sur deux cartes géographiques datées de 1830, un coureur des bois nommé Jean-Baptiste Perrault, ne pas confondre avec Jean-Paul, écrit le nom de Nagatinong pour nommer la rivière sur la première carte et Agatinong sur la deuxième. Ces deux noms sont phonétiquement très près du nom moderne de la rivière. C'est une possibilité, mais je préfère, dit Denis Graton, la troisième hypothèse. Voici donc cette troisième hypothèse qu'on peut lire sur le site de l'encyclopédie libre Wikipédia dans la section toponymie de la ville de Gatineau. Plusieurs historiens croient que le nom Gatineau proviendrait des innombrables gays qui avaient de petits nœuds dans leur pénis, d'où l'expression « gaytineux ». En effet, plusieurs Anglais utilisaient cette procédure comme moyen de torture. Ce rassemblement de personnes souffrant du même problème aurait pris de l'ampleur et serait devenu l'une des plus grosses villes au Québec. C'est ce qu'on peut lire sur ce site sans blague. Ce passage sur l'historique de la ville de Gatineau dans le site Wikipédia a évidemment été ajouté par un petit blagueur qui, selon toute évidence, n'avait pas grand-chose à faire ce jour-là. Et à sa place, je prendrai les cours de français parce que son passage sur le web est bourré de fautes que j'ai corrigées pour cette chronique. Parce qu'il est comme ça, le site Wikipédia. Pratiquement n'importe qui peut y écrire n'importe quoi. Je vous le dis, d'ici une décennie ou deux, la majorité des gens sur la planète va croire que la ville de Gatineau a été nommée ainsi pour souligner la forte présence d'hommes, vous savez quoi. De là le slogan « Gatineux, on y croit ». Ah là là. Et puis en terminant, il nous fait un petit rappel que je me fais aussi un devoir de vous faire, un rappel que le personnel des galeries de Hall, si vous êtes dans la région, organise une méga vente de garage lundi le 13 octobre, jour de l'Action de grâce, de 10h à 16h. L'événement se tiendra dans le stationnement de l'endroit, entrée sur le boulevard de la Carrière. Et il nous rappelle, Denis Graton, que tous les profits de cette journée seront versés à Laurie Grégoire Brière et Simon Lafrenière, un jeune couple de Gatineau, parents d'une fillette de 8 mois qui a grandement besoin d'un coup de pouce depuis que Laurie a appris qu'elle était atteinte d'un cancer. En d'autres mots, c'est pour une très bonne cause. Dans le domaine culturel, il sera beaucoup question de cinéma aujourd'hui, puisque c'est hier que s'ouvrait le Festival du Nouveau Cinéma. Il me semble que c'était le 43e, voilà, c'est ça, le 43e Festival du Nouveau Cinéma qui s'ouvrait hier. Et entre autres, il s'ouvrait avec le dernier film de Philippe Falardeau, qui s'appelle « The Good Lie », »,« Le beau mensonge » en français. Philippe Falardeau qui s'est dit flatté de voir son dernier film présenté en ouverture du FNC. « L'amour et le rire », écrit André Duchesne dans la presse, était au cœur de la soirée de lancement du 43e Festival du Nouveau Cinéma qui a pris son envol hier soir avec la projection du film « The Good Lie » de Philippe Falardeau devant une salle bien remplie au théâtre Maisonneuve. Actuellement en tournage de son prochain opus, « Gibor s'en va en guerre », en Abitibi, M. Falardeau a pris l'avion pour Montréal en mi-journée, a foulé le tapis rouge, présenté son film avant de retourner à Val-d'Or durant la projection. Tout ça parce qu'il doit reprendre le collier dès 6 heures ce matin dans la forêt boréale. « Je ne pouvais quand même pas manquer ça », a-t-il lancé avec un grand sourire en entrevue sur le tapis rouge. « J'ai toujours aimé le FNC. Je fréquentais ce festival avant même de faire des films. C'est au FNC que j'ai fait une partie de mon éducation en cinéma. » J'ai été surpris et flatté qu'on me demande mon film en ouverture. C'est un tremplin formidable pour sa sortie en salle le 17 octobre. Plus tard, sur la scène du Théâtre Maisonneuve, M. Falardeau a rappelé sa longue association avec le FNC qui, il y a 14 ans, avait accueilli son premier long-métrage, « La moitié gauche du frigo » dans la section « Cinéma numérique ». Pour cette présentation, le cinéaste était accompagné du comédien Ger Duhani, un des principaux acteurs de « The Good Lie ». Ce dernier, un ancien enfant soldat, a raconté à une salle très attentive qu'il revenait de loin. Rappelons que « The Good Lie » évoque l'odyssée de quatre jeunes garçons fuyant la guerre civile au Soudan du Sud. Festival du Nouveau Cinéma encore dans Le Devoir, Odile Tremblay en compagnie des Ouïghours de Guantanamo. Ça fait la une du Devoir ce matin et cela nous dit, au milieu des manifestations enflammant Hong Kong, on a vu des bannières arborant le visage d'Ilham Tohti, professeur de commerce international et riche homme d'affaires d'origine ouïghour, dépossédé par l'État. Condamné à la prison à perpétuité le 23 septembre dernier, ce militant pacifiste s'est battu pour la culture et la langue de son peuple musulman d'origine turcophone, plus persécuté par la Chine encore que les Tibétains. Leur région du Xinjiang, où il y a là 8,5 millions d'Ouïghours en Chine, c'est le chiffre officiel à multiplier par deux, possède du pétrole, du gaz naturel. Son climat est idéal, la Chine le convoite. Roshan Abbas a quitté en 1987 le Xinjiang à l'âge de 20 ans pour les États-Unis lors d'une période de turbulence comme il y en a tous les 3 ou 5 ans avec répression et sang versé. Étudiante activiste depuis 1985, évoque-t-elle, ma vie était en danger. Bientôt titulaire d'une maîtrise en biologie, puis œuvrant pour une boîte d'import-export à Los Angeles, Roshan Abbas fut recrutée par le département de la défense américain pour servir d'interprète à des compatriotes enfermés à Guantanamo. Cette dame intelligente et chaleureuse est une des figures clés d'un documentaire très percutant lancé au FNC ce vendredi. Et elle a une hâte folle de voir enfin le film. Ouïghour, prisonnier de l'absurde, de Patricio Henriquez, colossal document d'enquête, éclaire le sort terrible de 22 Ouïghours. Après avoir fui la Chine pour l'Asie centrale, puis l'Afghanistan, qui les acceptait sans passeport, ils furent pris dans le maelstrom du poste 11 septembre 2001. Fuyant les bombardements militaires dans des grottes déjà occupées par des singes qui les lapidaient et se réservaient les meilleures places, ça ne s'invente pas, c'est vrai, capturés par les Pakistanais qui les vendirent aux Américains, décrétés terroristes, expulsés 11 ans à Guantanamo et traités comme on l'imagine. Le film retrace plus particulièrement le parcours de trois de ces malheureux parmi les 22 Ouïghours incarcérés dans cette base de Cuba avant d'être déclarés innocents mais gardés là, faute de pays désireux de les accueillir, par préjugés contre les terroristes ou pour ne pas déplaire à la Chine. Il fallut des années de ronde-jambe diplomatique sous le règne d'Obama pour recaser les uns en Albanie, d'autres aux Bahamas, aux îles Palaos, etc. Tous demeurent sans passeport et apatrides. Alors, on doit ce film à Patricio Henriquez, celui qui avait déjà fait « Vous n'aimez pas la vérité »,« Quatre jours à Guantanamo ». Et il a donc travaillé en étroite collaboration avec Rushan Abbas, cette jeune femme dont je parlais, cette femme dont je parlais au tout début de l'article signé Odile Tremblay dans Le Devoir. Dans le journal de Montréal, la France s'emballe pour Mommy. Après les critiques de cinéma, c'est au tour du public français de craquer pour Mommy. Le film de Xavier Dolan a récolté 55 000 entrées à sa première journée en salle en France hier et il est permis de rêver aux millions selon son distributeur Diafana. À Paris, où il a récolté environ 17 000 entrées, Mommy a même fait jeu égal avec Gone Girl de David Fincher qui prenait aussi l'affiche hier. C'est un démarrage absolument remarquable. Pour vous donner une idée, Tom à la ferme avait fait 150 000 entrées. En un jour, Mommy en a amassé le tiers. Ça correspond au chiffre d'une très grosse sortie française, a fait savoir depuis Paris le directeur de la production de Diafana, Didier Lacour. Pour Didier Lacour, le succès phénoménal de Mommy s'explique d'abord par la qualité du film, mais aussi par l'intense campagne de promotion qui a précédé sa sortie en France. Xavier est venu à Paris défendre le film. Il était partout dans les journaux, à la radio et à la télé. Ça compte énormément. En plus, Xavier est très bon en promotion aussi. Le film s'adresse à la génération des 20-25 ans qui s'identifie beaucoup à Dolan et à ses films. Le soutien de la presse a aussi joué un rôle majeur. À quelques rares exceptions près, tous les médias français ont vanté Mommy en des termes plus que flatteurs. Et puis enfin, on connaît les finalistes de la catégorie chansons de l'année. Ils ont été dévoilés. 10 artistes et groupes se disputeront ce Félix-là. Marie-Pierre Arthur avec Emmène-moi, Sans regret de Brigitte Boisjoli, Le rendez-vous de Valérie Carpentier, Comme on attend le printemps de Jérôme Couture, Map Monde des Sœurs Boulet, Les amoureux qui s'aiment des Trois accords, On leur a fait croire d'Alex Nevsky, Marie-Jo de Karim Ouellet et L'amour c'est pas pour les peureux de Vincent Vallière sont en nomination dans la catégorie. J'en ai oublié un, non en fait je ne l'ai pas oublié, je le gardais pour la fin puisqu'on va l'écouter Tout le monde en même temps de Louis-Jean Cormier.
Si on fait
Canuck, et oui, le Canadien. Ils ont gagné leur premier match, les Canadiens de Montréal, face aux Maple Leafs de Toronto. Ça se passait à Toronto. Marc-Antoine Godin qui dit un gardien qui fait les arrêts clés, le premier but qui donne le ton, Piquet Subban qui marque le but égalisateur et Thomas Plekanec le but gagnant. Plusieurs des éléments essentiels au succès du Canadien cette saison se sont concrétisés, permettant ainsi aux hommes de Michel Therrien de remporter leur premier match de la saison 4-3 hier face aux Maple Leafs de Toronto. Il s'agit pour le Canadien d'un début de saison sur les chapeaux de roue puisqu'il entame son calendrier avec 3 matchs en 4 soirs. Il se rendait à Washington sitôt le match terminé pour y affronter les Capitals ce soir. Ce n'est pas l'idéal, a convenu Michel Therrien en matinée. Par contre, le fait qu'on commence sur la route est quelque chose de très positif pour intégrer nos nouveaux joueurs. Les gars vont pouvoir apprendre à mieux se connaître et à affronter dès le départ l'adversité des matchs à l'étranger. Bon, ben, c'est le fun que ça commence par une victoire. Ça n'a pas toujours commencé comme ça, il me semble, dans les années passées. Il me reste un petit peu de temps pour 2 caricatures, peut-être celle-ci. Le Parlement canadien face à la guerre contre le groupe armé État islamique. Alors, on nous présente M. Stephen Harper en militaire armé avec les grenades et tout. À côté de lui, il y a Thomas Mulcair, plutôt en vieux 68-art, attardé avec son petit drapeau Love and Peace et puis ses petites fleurs dans les cheveux. Et puis à côté, il y a un bonhomme dont on ne voit pas le visage puisqu'il fait l'autruche et il a la tête dans le sol, je parierais, pour Trudeau. Et puis PKP ferait une déclaration sur l'honneur voulant qu'il n'interviendra jamais dans la ligne éditoriale de ses médias. Il fait ça avec la main sur le Journal de Montréal et de l'autre, il a le poing serré et il dit « je le jure ». Voilà, je vous laisse là-dessus. C'était Clotilde Seille au micro de Canal M qui faisait l'émission au quotidien, qui vous donne rendez-vous demain à 10h.